Salut. Alors dans cette chronique, je voudrais vous parler du sexisme en santé. Ça, c'est un peu le pitch. Sur le sujet, on a tendance à penser d'abord aux problèmes de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles, les VSS, je pense que tout le monde connaît maintenant, entre soignants et soignantes. Alors c'est vrai que c'est un sacré problème, mais c'est pas ça qu'on va aborder aujourd'hui. Tout d'abord par manque de temps, et ensuite parce qu'entre nous, c'est pas hyper original. Non, c'est vrai, me regardez pas comme ça. Bon, je sais que le hashtag MeToo a mis du temps à arriver à l'hôpital. On se souvient d'Agnès Buzyn, Roselyne Bachelot, respectivement médecins et pharmaciens, qui ont évoqué dans les médias les violences qu'elles avaient subies pendant leur carrière médicale, ou encore de Patrice Peloux, l'urgentiste médiatique hyper célèbre, qui a été accusé d'être un prédateur sexuel. Eh bien, tout ça, c'était il y a à peine un an. Mais depuis, tout le monde s'y est mis à croire que c'est devenu hyper tendance, le gouvernement, l'ordre des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, les assos étudiantes, et les résultats sont formels. Attention, tenez-vous bien. À l'hôpital et dans les facs de santé, ça se passe comme partout. Il y a plein de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles. Alors bon, oui, il y a sûrement des esprits chagrins qui ne comprennent pas que un lieu où exercent des professionnels qui se dédient à l'accompagnement et aux soins, de la naissance jusqu'à la fin de vie, soit aussi un endroit où se commettent autant de violences. En fait, tout ça, c'est normal. L'hôpital est un lieu de soins, certes, mais c'est également un lieu de pouvoir à tous les niveaux. Les vieux sur les jeunes, les chefs de service sur leurs subalternes, les profs sur les étudiants et étudiantes, les soignants-soignantes sur les patients. Et les hommes, quand ils ont le pouvoir, ils font quoi? Hein? Eh bien, ils commettent des VSS. À l'hôpital aussi, donc. Et c'est rassurant, finalement. Faut arrêter avec cette image de médecin surhomme. Alors, attention, c'est pas moi qui le dis, c'est pas la peine d'appeler la rédaction ou de m'insulter. En fait, ça sort d'un rapport publié fin 2024 sur les violences sexistes et sexuelles sous relations d'autorité et de pouvoir. Il a été rédigé par, concentrez-vous bien, c'est un peu long, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Je ne sais même pas si les mots sont dans le bon ordre. Et dans ce rapport, voilà ce qui est écrit. Je cite, attention, c'est long aussi. « Les mécanismes de domination sont les mêmes dans le monde de l'entreprise, du sport, de la santé, des institutions politiques, de la fonction publique ou de la culture, et se retrouvent dans l'ensemble des situations où existe un rapport d'autorité. Trop souvent, les hommes, qui ont un ascendant par leur hiérarchie, par leur pouvoir, sont dans une position de domination dont ils abusent. Attention, le meilleur arrive. Il est des univers particuliers où le rapport au corps, dans la culture, le sport ou la santé, dont on est en train de parler, rend plus facile l'emprise et la domination. Voilà, tout est dit. Donc comme je vous le disais au début, le sexisme entre professionnels de santé, c'est plus trop vendeur, surtout pour une chronique radiophonique. Bah, bon, alors on va parler de quoi dans cette fameuse chronique qui commence déjà à s'éterniser en parlant de trucs dont on ne va pas parler finalement? Eh bien, on va aborder un autre pan du sexisme dans le soin qui est de plus en plus étudié et médiatisé, mais à mon humble avis, moins connu du grand public. Il s'agit de la manière dont des biais liés à la représentation de sexe et ou de genre, entre autres critères, influencent la prise en charge des patients-patientes. Bon allez, le temps file, je simplifie à mort avec un exemple que je vais essayer de vous rendre crédible. C'est le matin, vous êtes chez vous en train de faire une séance de méditation en pleine conscience, et vous ressentez d'un coup une forte douleur dans la poitrine, genre un étau, qui diffuse dans la mâchoire et les bras. Je vais poser une question aux auditeurs auditrices, donc les autres ne répondez pas, sinon le petit potentiel comique va être réduit à néant. Alors les auditeurs auditrices, on fait quoi quand on a mal comme ça? Hein? Alors non, on ne se badigeonne pas d'huile de titri. Non plus, ça sert à rien de demander à ses collègues d'entonner un chant guttural polyphonique. Et non, définitivement non, ce n'est pas le signe qu'il faut se lancer dans une constellation familiale. Quand on a mal comme ça, on appelle le 15 ou le 18 et on file aux urgences. On est peut-être victime d'un infarctus du myocarde et c'est hyper dangereux. Mais quand on arrive aux urgences, et c'est là que ça devient marrant, selon qu'on soit perçu comme étant une femme ou un homme, potentiellement, on ne va pas être pris en charge de la même manière. Il y en a un ou une pour qui il est possible que ça ne se passe pas au mieux. Je vous laisse deviner qui. Vous ne trouvez pas? Vous êtes vraiment obtus, quoi. Pour faire court, si vous êtes une femme, il y a des risques qu'on minimise ou banalise plus vos douleurs, qu'on cherche un lien avec un supposé « stress », entre guillemets, que vous subissiez un retard dans l'accès à certaines procédures de soins, bref, que vous ayez une perte de chance, comme on dit, par rapport à un homme dans la même situation. De la même manière, si vous souffrez d'hypertension et que vous consultez, et que vous êtes une femme, il est possible qu'on vous refuse certains examens qui seraient réalisés chez un homme et qu'on vous suggère plutôt de prendre des antidépresseurs ou de démarrer une psychothérapie. On parle dans ces cas-là de psychiatrisation de la maladie de la femme. Ces exemples dont vous avez peut-être entendu parler ou qui vous semblent un peu caricaturaux sont bien réels et issus de deux publications récentes sur le sujet, d'où cette chronique qui se veut à la pointe et à l'intersection de l'actualité et de l'humour. Il s'agit des actes d'un colloque qui s'est tenu en mars 2024 sur les discriminations en santé à l'égard des femmes et qui vient d'être publié, et d'un rapport de la Défenseure des droits sur la lutte contre les discriminations dans l'accès aux soins. Dans ces documents, qui s'appuient à la fois sur des publications scientifiques, mais aussi dans le cas du rapport de la Défenseure des droits sur des témoignages récents, on découvre les différents mécanismes qui concourent à ces inégalités de traitement et qui s'ancrent en fait dans une histoire très longue. Alors on peut notamment citer la construction historique d'un savoir médical sur une maladie, par exemple l'infarctus dont vous avez été victime, uniquement à partir de ce qui a été observé chez l'homme, rendant ainsi tous les symptômes présents chez la femme comme atypiques, d'où des erreurs de diagnostic. Ou encore le présupposé historique, là aussi, d'une nature par essence pathogène ou fragile des femmes par rapport aux hommes. Et dont on considère qu'elles ont ainsi tendance à exagérer ou simuler la maladie. Ou encore la minimisation et la banalisation des douleurs ressenties par les femmes, en particulier quand elles concernent la santé menstruelle ou gynécologique. Le cas de l'endométriose est un terrible exemple. Même si la situation évolue positivement depuis quelques années, on estime encore entre 7 et 10 ans en moyenne le retard de diagnostic en France, surtout chez les adolescentes. Alors les raisons en sont bien évidemment multifactorielles, mais pour de nombreux chercheurs, chercheuses, c'est quand même pas mal lié à la banalisation des douleurs autour des menstruations. Alors on ne parle ici que du sexisme, mais le rapport de la Défenseure des droits montre que ces discriminations s'exercent aussi contre des personnes racisées, d'origine étrangère ou en situation de handicap notamment. Et je ne vous dis pas quand vous cumulez plusieurs critères de discrimination. Dans ce domaine aussi, le milieu de la santé apparaît comme tristement banal. Alors heureusement, la plupart des soignantes-soignants affichent leur engagement contre ces discriminations, et dans certains cas, la situation évolue positivement, avec par exemple un travail de formation et de sensibilisation des étudiants, étudiantes et des professionnels. Mais cette situation reste fragile à la merci des politiques régressives quant aux droits des femmes et des minorités qui sont mises en place dans de nombreux pays. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai faim, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter les documents dont on a parlé et que vous pouvez trouver facilement sur Internet, du moins pour l'instant, vu le sujet sensible qu'ils abordent. Avec l'autre taré outre-Atlantique et ses émules européens, on ne peut plus présumer de rien. Allez, santé !